J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. Jamais 203, dit le dicton. Et pour ne pas le faire mentir, voici le troisième épisode de cette première saison. Les femmes de chez moi, vous le savez maintenant, s'ouvrent en bruit, en son, comme un indice qui vous mettrait la puce à l'oreille quant à savoir qui se trouve de l'autre côté du micro. Celle qui me fait l'honneur de clôturer cette première saison se nomme Emmanuelle P2R. Bonjour Emmanuelle, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce que nous venons d'entendre et nous dire ce que ça raconte de vous ?
Ce bruit-là, c'est mon identité. Aujourd'hui, moi je suis journaliste, je suis plein d'autres choses dans la vie, mais je suis journaliste pleinement, voilà. C'est un bruit qui m'est cher.
Comme celui de la machine à écrire ?
Absolument, mais je ne pratique plus. Enfin, j'ai pratiqué quand j'étais petite, mais aujourd'hui c'est vraiment le stylo et l'ordinateur forcément.
Emmanuelle P2R est journaliste, comme elle vient de le dire, chef d'agence départementale pour Sud-Ouest dans les Landes. Dans notre département, un habitant sur deux lit chaque jour ce quotidien de presse régionale qui se place en deuxième position nationale, au coude à coude avec le Dauphiné. Tant que nous y sommes, je vous glisse ici quelques informations qui vous éclaireront pour la suite. Emmanuelle P2R est girondine. Elle aime passionnément son village, Sainte-Foy-la-Grande, où elle se ressource dès que possible. Elle a rencontré ses deux meilleures amies en participant à une comédie musicale. Avec la compagnie Mikado, elles se sont produites au théâtre Femina, tout ça suite à une petite annonce parue dans Sud-Ouest.
Le Sud-Ouest, que ce soit la région ou l'organe de presse pour lequel vous travaillez aujourd'hui, occupe une place majeure dans votre vie, mais on y reviendra. Pour l'instant, j'aimerais qu'on revienne à l'avant. Votre 21e siècle, Emmanuelle P2R, s'ouvre après un bac L obtenu à 16 ans, à Techdeco Bordeaux, où vous étudiez de 1999 à 2001, parce que finalement, je vous cite, « je ne savais pas trop quoi faire de ma vie
». En fait, bah oui, ça arrive à tout le monde. Je pense que plein de jeunes se retrouvent à passer le bac et pas savoir forcément ce qu'ils veulent faire. Je voulais être commissaire de police quand j'étais petite et finalement, bah, je me suis ravisée à cause d'un concours. Enfin, il faut monter à la corde et je me sentais pas. C'est très, très ridicule. Mais voilà, donc je savais pas ce que je voulais faire. Mon père était commercial et du coup, il m'a dit, écoute, Techdeco, il y a plein de matières différentes. Au moins, tu t'ouvriras des horizons. Et j'ai pas regretté. Voilà. Je me suis découverte à Techdeco. Je suis devenue une adulte. Je ne me suis pas reconnue et c'est vraiment deux années formidables.
L'an 2000, pour rester autour du 21e siècle, c'est aussi une année un peu particulière, vu que vous êtes partie deux mois au Canada.
Oui, absolument. C'est la première fois que je mettais les pieds si loin. Et pareil, ça fait partie de ma construction. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis arrivée à l'aéroport. Je ne comprenais absolument rien à leur accent. Je n'avais pas compris l'adresse. J'avais envoyé une mauvaise adresse mail parce qu'ils ne disent pas le arrobas. C'était un A commercial et je ne comprenais rien. Donc personne ne m'attendait à l'aéroport. Ça a commencé comme ça. Et en fait, ça a été deux mois exceptionnels dans la campagne de Montréal. Et voilà, où je me suis découverte aussi moi-même. J'ai pu après y retourner pour faire un road trip, enfin une session d'un mois de stop. J'ai fait 2000 km en stop, parce que les Québécois, ils vous emmènent au bout du monde. Et j'ai adoré, enfin, ces expériences qui construisent quand même une personne.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, allez, je vais partir deux mois en stop ?
J'avais envie de tester mes limites, je pense. J'étais à un moment charnière de ma vie à ce moment-là. J'avais gagné de l'argent en bossant comme une cinglée 75 heures par semaine en faisant la saison à Arcachon. Ma meilleure amie était là-bas avec son frérot. Je me suis dit, bah tiens, je vais m'incruster, mais sans m'incruster. Donc, je ne pouvais pas participer au transport. Et en fait, je suis partie avec un garçon que je ne connaissais pas vraiment. Mais voilà, on a cheminé comme ça d'un endroit à un autre. On est allé de découverte en découverte. Et voilà, c'est surtout l'humain, quoi. Les gens qu'on a rencontrés, j'avais envie forcément d'écrire en rentrant, quoi. C'était top, je recommande.
Vous avez déjà envie d'écrire à ce moment-là ?
Ouais, ça me démangeait, ouais. J'avais envie de, d'écrire tout ce qui m'arrivait parce que bah, c'est pas fou, ça arrive sûrement à plein de gens, mais c'est les rencontres surtout. Enfin voilà, c'est l'humain, tout ce qu'on peut vivre. Il y a des gens qui ont fait des détours. Là, c'est comme si j'avais besoin d'aller à, je sais pas, à Poitiers. Le conducteur va, lui, à Biscarrosse et finalement, il pousse jusqu'à Niort pour nous aider, quoi. C'est hallucinant, les Québécois sont fous. Donc voilà, ouais, ça inspire.
Pour continuer à nourrir son esprit à la fin de sa licence à Tech Deco, Emmanuelle Pédezère a eu envie de voyager. Elle a donc été voir du pays et en a profité pour passer une licence, a Diploma in Higher Education in International Business and Communication.
Oui, en Irlande du Nord, ouais. Je suis partie à Derry faire une licence. Je me souviens plus très bien des cours, mais je me souviens très bien ce que ça m'a apporté. J'y suis retournée l'été dernier justement pour voir des amis, parce que je m'y suis fait des amis irlandais très forts. Et là aussi, enfin, on se construit. Là, j'avais pas du tout envie d'écrire. Pourtant, il s'est passé des choses. C'était pas très. Enfin, il y avait le processus de paix qui a été enclenché au fin des années 90. Mais voilà, je vivais ça plutôt pleinement pour moi, et ça m'a construit en tant que personne, quoi. J'ai fait mon linge, j'ai fait à manger, je vivais avec des Japonais. Enfin voilà, on se découvre soi, et finalement, on se nourrit plus qu'on a envie de retranscrire tout ça.
Ça s'est passé comment, le retour en France ?
J'avais raté beaucoup de choses, en fait. J'avais raté pas mal d'actualités. Du coup, j'ai passé en suivant les concours d'école de journalisme, et j'étais complètement à la ramasse, qui pose des questions improbables. Mais voilà, je me sentais forte d'une expérience qui m'avait transformée, en fait. J'étais adulte, je savais que je pouvais faire des choix, je savais aussi ce que je voulais désormais. Et donc voilà, je suis rentrée dans une école à Paris, et j'avais pas peur non plus d'affronter Paris. Pourtant, c'était la capitale, nous, depuis ici, ça paraît... Bon, voilà, j'y suis montée avec mes petits bagages, et j'ai commencé ma vie de femme à ce moment-là, voilà.
Mais qu'est-ce qui a fait que vous passez de Tech Deco à l'École supérieure du journalisme de Paris ?
Alors, donc ouais, j'aimais bien l'écriture, je suis donc pas devenue commissaire de police, mais j'aime bien enquêter, et j'ai fait un stage, en fait, pendant les années Tech Deco, dans une maison de production à Paris, où j'accompagnais en fait des journalistes. Je trouvais ça complètement dingue d'être ce relais-là, d'être la personne qui allait chercher l'info, l'analyser, retranscrire tout ça. Il y avait aussi ce côté humain, en fait, que j'avais pu découvrir pendant mes voyages. Et ça m'a plu, donc je m'étais mis en tête de partir ensuite en Irlande pour moi me construire, mais j'avais déjà en tête de revenir passer les concours, ouais, pour les écoles. Voilà, c'est vraiment la bascule d'un stage, hein, comme quoi c'est vraiment précieux de faire des stages quand on est étudiant.
Votre année, parce que vous n'en avez fait qu'une finalement à Paris,
ouais,
c'est clôturé sur un mouvement étudiant de protestation, ce que vous m'avez dit.
En fait, on avait déjà tous bac plus 3 ou bac plus 4, et on s'est retrouvés les deux tiers au repêchage. Ce qui nous paraissait fou après les examens écrits, parce qu'on savait qu'on avait à peu près réussi. Enfin voilà, on se connaissait dans nos parcours étudiants. Et donc on a demandé à avoir nos copies. C'était 50 euros la copie, un peu cher pour contester. Pour passer le rattrapage, il fallait payer, je crois que c'était 400 euros. Enfin juste, mes parents hurlaient, tous les parents hurlaient. Donc on est allé voir la direction en bloc, en fait, en leur disant que c'était pas possible, qu'on n'allait pas accepter. On avait appelé France 3 Île-de-France, enfin juste notre révolution à nous, et donc on a menacé de tous partir, quoi. Mais moi, j'étais devenue adulte, femme affirmée, j'ai décidé de partir. On était plusieurs avec mes super copains, on s'est dit très bien, de toute façon il faut apprendre sur le terrain, allons-y, quoi. Voilà, donc j'ai quitté, j'ai fait qu'une école de l'ESJ Paris.
Et il y a une figure du journalisme qui vous a poussé dans cette démarche.
Absolument, ouais. Il s'appelle Jean-Michel Destan. C'est un ami, enfin une connaissance de mes parents, une vague connaissance. Et du coup, mes parents m'avaient dit, appelle-le, peut-être qu'il peut au moins te donner des conseils. Mes parents étaient morts de panique. Et non, pas question. Enfin, je vais pas écouter mes parents, moi. Attends, je me fais toute seule. Finalement, je me suis ravisée. J'ai été voir ce grand monsieur. très très impressionnant avec sa moustache, etc. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais en fait? Je suis à deux doigts d'abandonner mon école, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que c'est le bon choix ou est-ce que je fais une erreur monumentale? Et j'allais l'écouter en fait. Et plus qu'un conseil, il m'a donné des ailes en fait. Il m'a dit quelque chose qui est très vrai, en tout cas moi j'en suis convaincue. Et j'aime du coup le partager. C'est qu'il faut oser, il faut se lancer, et peu importe l'embarcation, l'important c'est d'être sur l'eau, que ce soit un yacht, que ce soit voilà, un petit navire, mais peu importe, il faut se lancer, ce sera sur le terrain que tu apprendras, donc vas-y petite, et voilà, j'ai osé, j'y suis allée, je garde ça en tête, je ne vois plus du tout ce monsieur, on se suit sur Facebook, on se donne des nouvelles, enfin moi j'envoie mes vœux bien cordialement de temps en temps, mais voilà, c'est quelqu'un qui dans ma vie a été un phare, ouais.
C'est après cette décision de quitter l'ESJ que vous avez commencé à l'Écho des Collines.
Alors j'ai écouté Jean-Michel Destin parce qu'en plus d'être un bon journaliste et surtout une grande pointure, enfin c'est quelqu'un qui a reçu quand même le prix Albert Londres en 92 pour le Spoons, qui a fait voilà des tas de reportages, donc c'est un mec avisé, et il m'a dit faut faire des stages en fait. Mais je fais comment des stages sans école? Donc je me suis débrouillée, je me suis inventé des compétences, j'ai frappé à toutes les portes, j'ai été insistante, j'ai été lourde, j'ai été chiante, mais j'ai réussi à avoir des super stages. Il y a des magazines et des journaux qui m'ont fait confiance.
Lesquels, par exemple?
Ouais, ça m'intéresse, m'a aidé, le magazine d'information scientifique. L'IB, c'était rapidement, c'était pour un stage. La radio du voyage m'a aidé. Enfin voilà, pas mal de supports comme ça. Et j'ai postulé à un journal. Je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas rentrer dans le sud-ouest à ce moment-là, parce que j'étais à Paris et sans trop d'argent, forcément. Et l'Écho des Collines a été le premier titre de presse à me donner ma chance. Voilà, j'en suis ravie parce que ça m'a formée, ouais.
L'Écho des Collines est un journal associatif dédié à la rive droite de Bordeaux. Il donne chaque mois la parole à ses habitants, urbains ou ruraux, et à ceux qui y travaillent. À propos de son passage par cette rédaction, Emmanuel Pédezer m'a dit « J'y coordonnais le travail de bénévole, je faisais des reportages hyper variés, j'ai appris à mener des réunions de rédaction, à me démerder comme je pouvais avec mes petits moyens. »
Bah, c'était exactement ça, ouais. Le quotidien, c'était avec des bénévoles qui arrivaient de d'horizons très divers. Donc tout le monde avait envie d'écrire comme il voulait, quand il voulait, etc. Il fallait coordonner tout ça. Et c'est surtout avec des petits moyens. La mise en page, des fois, on l'a découpé. On était avec nos ciseaux, les papiers, on copiait, on collait, on faisait des photocopies. On distribuait le magazine ensuite dans les kiosques. Nous-mêmes, on allait les porter. Enfin, c'est très artisanal, mais c'était hyper formateur. Enfin, moi, j'ai appris... 10 fois plus en 2 ans à l'Écho des Collines que je pense 15 ans dans un titre classique, quoi. L'expérience d'un média associatif, c'est énorme.
Alors je voudrais qu'on revienne brièvement à Paris, parce qu'en plus de l'ESJ, à Paris, vous faites une rencontre qui va un petit peu bouleverser votre vie pour la suite.
Est-ce qu'on parle du moment ivre où j'ai rencontré mon mari? Oui, ben voilà, comme beaucoup de couples français, c'est lors d'une soirée très arrosée et étudiante que j'ai rencontré l'homme qui deviendra mon mari et le père de mes enfants. Et effectivement, c'est quelqu'un très important pour moi, parce qu'il me pousse sans cesse vers le haut, quoi. Enfin, faut toujours s'entourer de toute façon de gens meilleurs que soi. Donc il est forcément un homme bon, mais c'est quelqu'un qui pousse, qui encourage et... Voilà, si j'ai ce parcours-là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, oui.
Parce que quand il part à Lille, vous le suivez?
Absolument. Et lui, il y a cru. Il m'a dit, mais postule à la Voix du Nord. Bah non, je vais pas postuler à la Voix du Nord alors que je suis à l'Écho des Collines, un petit journal associatif. La Voix du Nord ne m'attend pas. Et bah si, il m'a poussé à le faire. Et un jour, la DRH de la Voix du Nord m'appelle pour me proposer une semaine de contrat à Armentières. Alors attendez 2 secondes madame, Armentières, laissez-moi regarder sur une carte, internet ne marche pas beaucoup à l'époque, et ben go, je lâche CDI, famille, mon chez moi, tout pour rejoindre, alors il y avait une bonne motivation quand même puisqu'il y avait mon chéri, mais un titre de presse, voilà, que je n'aurais jamais osé par moi-même en tout cas contacter, quoi, toute seule directement, et j'ai bien fait de l'écouter. J'y suis restée du coup 5 ou 6 ans, j'ai galéré parce que du coup c'était une semaine de contrat à Armentières, mais ensuite enfin voilà, il fallait aller à Denain, Valenciennes, Roubaix, enfin des tas de villes que je ne connaissais pas, et puis voilà, ça a quand même été un choc culturel, quoi. Le Nord et le Sud-Ouest sont deux régions de France très opposées. J'ai rencontré des gens, mais d'une générosité. Moi, girondine, je me demandais ce qu'ils me voulaient, tellement ils étaient gentils. Pourquoi ils me garderaient à table? Pourquoi ils me laisseraient leur pièce d'un euro au caddie? Voilà. Enfin, voilà, c'est des gens qui vous aident et qui vous accueillent chaleureusement. Et puis, j'ai rencontré une extrême pauvreté. J'ai rencontré, enfin, il faut aller faire des reportages à Armentières et à Denain pour comprendre le monde dans lequel on vit, ouais. Plus sans doute que dans le Sud-Ouest. Il y a des gens effectivement dans une grande détresse, dans les Landes, en Gironde, n'importe où. Mais ce que j'ai vu quand même dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est quelque chose. Ouais.
Après ces années passées dans le Nord, une envie de retour au bercail s'est faite sentir. Elle quitte ce grand quotidien, prend rendez-vous avec le rédac-chef de La Voix du Nord pour le remercier, et dans la foulée, Sud-Ouest l'appelle pour un CDD d'une semaine à Pau, joie et fierté.
Bah, je pense qu'on est toujours fiers quand on est embauché, mais moi, le journal Sud-Ouest, ça fait aussi partie de mon identité. Sud-Ouest, il y a mon nom marqué le jour de la parution du 20 juillet 1982. Il y aura mon nom marqué le jour de mon décès. En tout cas, j'espère qu'on pensera à faire ma nécro quelque part dans les carnets nécro. Et voilà, j'ai mon grand-père lisait Sud-Ouest. J'ai découvert la comédie musicale en voyant un petit encart dans Sud-Ouest, et c'est là où je me suis fait mes meilleurs amis en suivant en fait une annonce Sud-Ouest. Enfin, Sud-Ouest a quand même marqué ma vie, et effectivement, quand Sud-Ouest vous fait confiance et vous dit bah ok, c'est parti pour une semaine à Pau, est-ce que ça vous dit? J'étais dans un état d'excitation proche de la folie en fait le premier jour de mes débuts chez Sud-Ouest. Ouais. Et voilà, et ensuite j'ai continué, j'ai pas mal tourné comme tout le monde en fait, hein. Je pense que dans la presse, on est amené à multiplier les CDD, ce qui est bien en fait. Souvent on s'en plaint, oh, j'ai pas de CDI, mais au final, tourner, c'est comme ça qu'on apprend sur soi. On est toujours obligé de recommencer à zéro, d'user d'humilité, parce qu'on ne connaît pas, et donc s'adapter aussi sans cesse, c'est hyper formateur. Voilà, jusqu'au jour où on m'a proposé un poste à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Je ne sais même pas si j'avais mis les pieds un jour, mais pareil, voilà, j'ai découvert le Lot-et-Garonne, je m'y suis attachée, j'y suis restée 5 ans, j'y ai fait mes armes, je suis devenue chef d'agence là-bas, et voilà, c'est une expérience, j'ai rencontré des gens fabuleux, enfin, je vais vous le dire à chaque fois en fait, hein, que moi j'adore mon travail, donc... Voilà, et puis un jour, je me suis dit quand même, ce serait bien de bouger. On va aller voir la mer. Les Landes, c'est pas mal aussi. Et on me proposait aussi d'évoluer, de devenir chef de rédaction, c'est-à-dire d'orchestrer un peu plus le quotidien, en fait, de prendre des décisions, de faire des choix éditoriaux, de démaqueter le journal pour mettre telle info, etc. C'était un vrai challenge, et surtout, je rejoignais une équipe départementale qui avait déjà bonne réputation, parce que c'est une équipe hyper soudée, l'équipe des Landes, c'est quelque chose dans notre titre de presse. Et j'ai relevé le défi, voilà, avec excitation aussi, peur, appréhension, tout ce que vous voulez. Mais je suis contente d'avoir découvert les Landes, parce que pareil, c'est un département hyper attachant, quoi.
Là, aujourd'hui, donc, vous êtes de nouveau chef d'agence,
ouais,
dans les Landes.
Chef d'agence départementale.
Départementale. J'ai juste relevé un petit truc. Vous écrivez « chef ». Moi, je rajoute deux « F-E ». Comment vous vous situez dans ce débat?
J'écris chef parce que je fais très attention, moi, à la sémantique, à la charte du journal, à tout ce que j'ai appris. Je suis quelqu'un de très droit, donc effectivement, on écrit chef, nous, C-H-E-F. Mais le féminin compte, d'autant qu'une femme en responsabilité si jeune dans un titre de presse comme le journal Sud-Ouest, voilà, c'est une expérience hyper intéressante et enrichissante, mais qui est difficile. Une femme en responsabilité, c'est assez compliqué, donc je suis la première à défendre quand même le féminin dans la presse. Mais voilà, je suis aussi hyper respectueuse des institutions, et voilà, je ne suis pas enquêtrice, j'enquête. J'essaie toujours de détourner en fait les phrases pour pas dire le féminin, mais allons-y s'il faut. Enfin voilà, s'il faut bousculer les codes à un moment donné, pourquoi pas s'embarquer là-dedans, ouais.
Tant qu'on est là-dedans, moi, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse aussi sur l'affaire de la Ligue du LOL qui a un petit peu bousculé le monde de la presse. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de toutes ces langues qui se délient finalement?
Ben c'est bien que ça apparaisse maintenant, parce qu'effectivement, on rit de beaucoup de choses. C'est violent parce qu'en fait, ça a toujours atteint des personnes qui étaient en situation précaire, ou des femmes ou des gens qui étaient différents, alors que je pense qu'en plus, la richesse de la presse française, c'est la différence des auteurs. Enfin, on est tous différents et on est riches de ça. On attend une presse qui est aseptisée, qui ne fait pas de commentaires, etc., mais on n'arrivera jamais à quelque chose à l'objectivité. Enfin, faut être concret, ça n'existe pas. Donc le fait d'être différent et d'avoir ces profils-là, des femmes, des hommes, des gens qui arrivent d'horizons divers, mais c'est une chance en fait. Et je pense qu'on n'aurait pas à en rire. On devrait non pas créer la ligue du LOL, mais s'engager justement dans une ligue pour défendre cette presse qui en plus est meurtrie en ce moment. Enfin, on est attaqué de toutes parts alors que on a la chance d'être de vivre de cette diversité-là. On est divers, on est pluriel. On est bon, enfin, dans ce qu'on fait, parce qu'on est engagé. Je pense que les gens qui choisissent ce métier, ce sont des gens qui veulent œuvrer aussi pour les autres, auprès des autres, et bon sang, ça suffit, voilà.
Au moins c'est clair. Alors pour revenir un petit peu à votre parcours quand même, entre le Canada, l'Irlande, le Nord, Marmande et la demi-douzaine d'autres rédactions de Sud-Ouest par lesquelles vous êtes passé. Sans parler de votre bien-aimée Sainte-Foy-la-Grande. Vous avez pas mal bougé. Alors, est-ce que vous êtes ancrée dans les Landes aujourd'hui, ou est-ce que vous avez déjà pour projet de vous envoler vers d'autres horizons ?
Bah, j'y suis bien, moi, dans les Landes. Enfin, effectivement, on peut être amené à bouger notre travail. Enfin, voilà, c'est aussi bien. C'est intéressant de se remettre en question, d'aller bosser, pourquoi pas un jour à La Rochelle, à Bordeaux. Mais voilà, après, le cadre familial est important. Et moi, mes enfants se sentent hyper bien ici. Voilà, on s'y est installés. On se suit beaucoup avec mon mari. À chaque fois que je suis nommée ici, il est nommé là-bas. Enfin, voilà. Donc là, on a réussi à se trouver un chez-nous, un coin, un ancrage. Et on se sent bien dans les Landes. Donc je pense que non, je vais rester un petit moment, ouais.
Donc ça amène ma dernière question qui conclut notre première partie. J'aimerais que vous me donniez votre vision de notre territoire, notre région, Mont-de-Marsan, la Chalosse, les Landes, le Sud-Ouest. Pour vous, c'est quoi ?
En fait, c'est hyper compliqué, votre question. c'est une identité. On entend beaucoup ça, la défense des traditions, etc. ici. Mais plus que ça, il y a il y a une âme, il y a quelque chose partout où vous passez en fait, même si vous baladez, vous traversez la Chalosse. Je suis allée il y a pas très longtemps à Montségur, mais même là-bas vous êtes c'est habité en fait, c'est où que vous alliez dans les Landes, il se passe quelque chose et vous rencontrez des gens qui portent des vraies valeurs. On vivote pas dans les Landes, on vit les choses pleinement. On aime le basket, mais on l'aime à 800%, les salles se remplissent à fond. On aime la corrida, mais on y va et on se bat pour ça, on s'expose, enfin voilà. Voilà, tout est entier en fait. C'est un territoire qui est entier et que j'aime découvrir, parce qu'en fait il est varié, il est très différent d'un point à l'autre. Après, plus largement, la région est comme ça. La région de Sud-Ouest a cette identité-là, qui fait que un journal comme Sud-Ouest existe aussi. La marque Sud-Ouest est importante. Les gens savent qu'on est à leur côté, mais parce que voilà, il y a cet état d'esprit-là dans le Sud-Ouest. Les gens ont besoin de leur quotidien, et voilà, je pense que dans les Landes plus qu'ailleurs, c'est marqué.
Sur ces belles paroles, Emmanuel, je vais vous laisser nous annoncer votre choix musical. Ne riez pas.
Est-ce qu'on peut redire que Marie-Laure Lafargue aimait bien Patrick Bruel, s'il vous plaît ? Pour que je puisse annoncer que je suis une inconditionnelle de Jean-Jacques Goldman. Et si vous êtes d'accord, on pourrait écouter Les Petits Chapeaux, ma chanson chérie, s'il vous plaît.
MDM, tout un monde.
Tout un monde. ça tombe bien, moi non plus. Elle ramasse les paumés, tout ce qui traîne, les vieux, les chats dans le tailleur et moi, les plaies, les bosses qui saignent, elle aime. Quand on lui demande pourquoi, elle répond pourquoi pas. Cette ombre qui rend les gens fréquentables, elle m'est tombée dessus sans trop crier gare. Je voudrais qu'elle me garde un petit peu plus tard. Elle me trouve beau et puis je la crois. Elle dit ça me saoule, c'est pas les appels. Elle a chaud, toujours trop froid. Le monde lui fait pas peur. Elle trouve la vie mortelle. Elle a comme une petite douleur dans le regard. Cette ombre qui rend les gens fréquentables. Elle m'est tombée dessus sans trop crier gare. Je voudrais qu'elle me garde un petit peu plus tard. Elle se passe de moi, comme elle est fière et secrète parfois, comme elle donne tout à chaque fois. Elle met des petits chapeaux et moi ça me va.
Pour une communication 100% locale,
05 58 46 3 fois,
Radio MDM, la communication radio locale.
Vous êtes toujours sur Radio MDM et vous écoutez Les Femmes de chez moi, épisode 3, Emmanuel P2R. La deuxième partie de l'émission repose sur trois souvenirs de l'invité, trois souvenirs marquants qui la racontent. Votre premier souvenir, Emmanuel P2R, c'est un cours de radio à l'école de journalisme.
Oui, c'est un moment que j'attendais avec impatience parce que bah voilà, je m'étais jamais frottée vraiment à la radio. Donc j'avais hâte, j'avais tout bien préparé. Et mon professeur était Alain Passerelle, que j'écoutais tous les soirs sur France Inter. J'étais complètement fan de ce journaliste qui a arrêté sa carrière du coup, qui est en retraite depuis 2017. Et donc j'étais complètement fan de lui. J'avais une certaine appréhension quand même de présenter mon premier journal radio devant lui. Et en fait, il m'a écoutée jusqu'au bout. Et puis à la fin, il a juste eu cette phrase. Voilà, s'il te plaît, Emmanuel, rends service aux auditeurs, ne fais jamais de radio. Donc ça m'a aidé à choisir la presse écrite, même si j'aimais déjà beaucoup écrire. Mais voilà, je parle beaucoup trop vite, vous vous en apercevrez. Je n'ai pas cette voix-là qui capte et c'est un métier en fait, c'est un autre métier. Donc j'adore Alain Passerelle, mais je me souviendrai très longtemps de ce cours de radio. Ouais.
Donc c'est ça qui vous a influencé aussi pour définitivement vous orienter vers la presse écrite. Vous m'avez parlé d'un amour pour les livres, pour les cahiers, pour les crayons, surtout à papier. Mmh. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est l'inverse ?
C'est hyper compliqué en fait, je ne sais pas qui, de l'œuf ou de la poule, mais L'un va avec l'autre, en fait. J'achète des cahiers, je ne veux pas écrire dessus parce qu'ils sont trop beaux. Finalement, je finis par écrire dessus parce que ben, y a de l'info, donc j'ai besoin de toute façon de cahiers. Mais du coup, j'en rachète encore plein parce que je les trouve beaux. J'achète toujours des beaux cahiers. J'ai un budget papeterie assez conséquent. Et les crayons, non, j'adore, en fait. Mais si, ils me donnent aussi, selon l'interview, je prends tel crayon papier, ouais. C'est bizarre, hein. Je m'entends vous le dire, pardon.
Et comme ça, là, juste pour voir, votre livre de chevet du moment ?
Ah, c'est un livre que j'ai trouvé chez Caractère. C'est un livre d'Erwan Larère, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a vécu le Bataclan et qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce livre que je ne voulais pas écrire ». Il raconte, c'est un ovni, ce truc-là, c'est hyper chouette et c'est hyper prenant. Voilà. Allez à la librairie Caractère.
Votre second souvenir, Emmanuel Pédézère, c'est la veille de votre mariage, le 13 mai 2011, très précisément.
Oui, alors tout le monde se souviendra du jour de son mariage, mais moi je me souviendrai de la veille, pas parce qu'il s'est passé un truc concernant ma vie privée, mais j'étais dans un magasin de chaussures. J'avais oublié d'acheter les pompes pour le mariage, donc voilà, le téléphone sonne, c'est un de mes patrons du journal Sud-Ouest qui m'appelle pour me féliciter. Et donc la panique, mais vous êtes fous, vous pouvez pas me féliciter la veille de mon mariage, ça va me porter malheur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi vous faites ça? Donc je le pourris sans me rendre compte quand même que c'est mon supérieur. Il ne comprend pas, il bredouille, il bafouille, il me dit non, mais Emmanuel, je vous appelle juste pour vous signaler qu'on vous embauche dans la grande maison Sud-Ouest, vous êtes titularisé. Donc voilà, ça a été un jour hyper marquant. J'ai adoré le jour de mon mariage, mais la veille a été un jour exceptionnel. J'ai fait mon entrée officielle au journal Sud-Ouest.
Emmanuel Pédézère est véritablement attaché à ce média qui l'accompagne depuis sa naissance, mais également à la région qui va avec. Quand je m'installe quelque part, me confiait-elle, j'aime bien vivre à fond le territoire. Propos illustré entre autres par une manifestation organisée l'an dernier pour être aux côtés de l'agriculture landaise après les deux crises aviaires, les Landes se redonnent des ailes.
La rédaction en chef de Sud-Ouest nous a mis au défi de porter des projets éditoriaux à l'année. Donc ça s'appelle des fils rouges. Et l'année dernière, comme une évidence, on avait envie d'être justement aux côtés des agriculteurs landais qui venaient de subir deux épisodes de crise aviaire et voilà, qui se remettaient doucement et difficilement quand même de ces épreuves. Donc on s'est demandé comment les accompagner. On a déroulé ce fil vert, on les a suivis sur des reportages, etc. Et en fait, on voulait quand même donner une petite note d'optimisme, finir sur quelque chose de positif, justement parce qu'en fait, ça ressemble tout à fait aux Landes, ça, ce territoire-là qui se bouge sans cesse. Et donc, on a organisé un événement qui s'appelle Les Landes se redonnent des ailes, où on donnait la parole à de l'agriculture, plein d'intervenants qui, aujourd'hui, se mobilisent pour se réinventer, trouver des nouvelles façons de cultiver, de porter des projets, etc. Et ça a été un événement marquant. En tout cas, voilà, nous, on a été contents de ce qu'on a pu apporter pour le territoire. Je pense que c'est important de s'engager comme ça. Et cette année, du coup, pour le... Notre deuxième fil rouge, là l'évidence est venue de l'équipe du journal, des confrères. Ils avaient envie de faire quelque chose pour le climat, pour la planète, pour l'environnement, tout, parler d'absolument tout, vite, fort, haut, bousculer les choses. Voilà, donc on est parti sur un projet qui s'appelle Les Landes envers et avec tous. On déroule ce fil rouge qui est donc un fil vert. Tout au long de l'année, on est en train de réfléchir à un gros événement pareil, un peu festif, parce que bah, dans les Landes, on aime bien ça, pourquoi pas des défis, voilà, on est en train de réfléchir à quelque chose qui aboutira à la fin de l'année, mais c'est important que le journal Sud-Ouest puisse s'engager pour son territoire.
Je trouve que ça vous caractérise un peu, ça, cet engagement en local. Du coup, je me demande, est-ce que vous êtes dans la PQR pour la vie, ou est-ce que vous avez envie de peut-être autre chose ?
Je ne sais pas. Je pense qu'on peut avoir mille vies. Moi, j'ai beaucoup donné. Je me suis beaucoup investie pour devenir journaliste. J'adore mon métier et je le fais avec appétit. Demain, je ne sais pas. Voilà, la vie fait qu'on se pose toujours plein de questions. Et on verra demain. Je peux très bien devenir fleuriste, chanteuse sûrement, avec Jean-Jacques Goldman. Voilà, je ne sais pas. Je vis le moment présent.
Alors votre troisième souvenir, Emmanuel, c'est la mort d'Henri Emmanuelli le 21 mars 2017.
Ouais, c'est pas un souvenir heureux, enfin joyeux, voilà, mais c'est un souvenir marquant dans une vie professionnelle en tout cas. Mais voilà, moi ça m'a marqué professionnellement parce que c'est un moment que j'ai vécu intensément. J'étais au conseil départemental qui était réuni en session budgétaire à ce moment-là. Je reçois un texto de la rédaction de ma chef à l'époque qui s'appelait Audrey Ludwig et qui m'a mis juste Henri Emmanuelli est mort. Donc je lis ce message-là estomaqué. Je pense que j'ai ouvert en grand la bouche. J'ai caché mon téléphone et une seconde après, en fait, Xavier Fortinon, qui lui succédera un petit peu plus tard, a coupé la séance pour annoncer que le président était décédé. Ce moment-là, il a été marquant parce que je reste professionnelle. À ce moment-là, c'est la journaliste qui est dans l'Assemblée et je ne peux pas faire autrement que vivre aussi cette émotion qui s'empare, qui marque le l'instant. En fait, tout le monde est ému, choqué, triste. Les larmes de Monique Lubin à ce moment-là. Enfin, je ne connais pas cette dame, mais je connais l'élu, mais c'est quelque chose qui est très marquant dans une vie. Donc il faut que je fasse mon travail, je tremble alors que je suis toujours très détachée sur les événements. Et voilà, il faut travailler sans heurter, il faut progresser et pouvoir parler alors que les gens ont juste envie de se serrer dans les bras et sûrement pas de parler à Emmanuel Pédezer à ce moment-là. Donc voilà, ça force quand même l'humilité à ce moment-là. On se dit qu'on est juste rien, on vit un moment qui est historique forcément. Et voilà, je m'en souviendrai dans ma carrière, il y a plein de choses que j'aurais vécues, mais celui-là, il est majeur.
Vous en avez un autre souvenir de carrière comme celui-ci ?
Plus léger. J'ai Benoît Poulvorde qui me voit en panique. Je devais faire des photos et je ne suis pas photographe professionnel. Et une horde de journalistes sur un shooting le prend en photo, le fait avancer, ceci, cela. Je suis tétanisée. Je ne sais pas quoi faire avec mon appareil photo parce que j'ai un tout petit appareil minuscule. Et en fait, il arrête ce moment-là. C'est lui qui l'arrête. C'était évidemment que des messieurs photographes. Il leur demande à tous de s'écarter, de poser l'appareil photo. Et il prend la pose pour moi, il me demande d'avancer. Mademoiselle, je suis à vous. Voilà, c'est un moment qui restera aussi.
Alors on va finir avec une inévitable question, Emmanuel. Est-ce que la petite fille que vous étiez se pensait capable d'accomplir un tel parcours de vie ? Est-ce que l'ado que vous étiez pensait finir à la tête du quotidien régional le plus lu des Landes ? Est-ce que vous êtes fière aujourd'hui de ce que vous avez accompli ?
Je ne suis pas devenue commissaire de police, mais peut-être, tiens, un jour, je deviendrai commissaire de police, non. Sans rire, je pense que je ne pensais pas, non, que j'étais capable de faire tout ce que j'ai fait. Je suis reconnaissante, en fait, d'avoir été entourée de gens si précieux dans mon parcours. Ça a commencé par ma mère, ma maman. Enfin, elles sont toutes forcément marquantes dans nos vies, mais elle était inspirante, en fait. Elle a cru en moi, elle m'a poussée. Elle aurait pu passer les entretiens pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui croyait en moi, donc qui m'a poussée. Voilà, mon mari derrière, et je ne serais pas devenue qui je suis, non. Mais voilà, il y a effectivement aujourd'hui je travaille en responsabilité avec une équipe, mais c'est la journaliste d'abord que je retiens, en fait. Moi je suis surtout contente et fière de ce que je peux proposer avec mon écriture dans le journal. Moi j'adore quand on arrive à solutionner des situations, quand on peut faire des chouettes portraits de gens incroyables, d'aller perdre 4 heures à Montségur pour aller rencontrer des gens qui ne se pensent pas importants mais qui sont tellement importants quand même pour leur territoire. Voilà, donc je suis contente de... Ouais, je suis contente de mon parcours, ouais.
Merci beaucoup.
Merci.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
J'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Et il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt, chez les femmes de chez moi.